partie, pas tous. Alors pourquoi? Première raison, c'est que alors, tout le discours, qui n'était pas que le sien d'ailleurs, autour de banalisation, voire la fin des cadres, c'est pas tout à fait l'analyse que l'on en fait, mais c'est pas dans la proximité, en tout cas, de la représentation avec les salariés, tout à fait le sentiment que l'on a. D'abord, très factuellement, leur nombre n'a jamais été aussi important. C'est quand même important de le rappeler, donc c'est une population qui a continué de croître. Hein. Alors c'est vrai, au gré d'un certain nombre d'autres évolutions, y compris la relation dans le travail, il y a un certain nombre de gens qui n'étaient pas cadres dans certaines organisations qui le sont devenus, parce qu'effectivement, il y a eu un passage dans une logique dont ils se sont fait jour. Bon, cela étant, cette question de la banalisation, il y a bien qu'en France qu'on entend ça. Quand même, c'est important de le rappeler, parce que quand on parle de cadre ici, on dit, mais souvent, c'est une spécificité française, ça n'existe pas. Alors, avant d'être dans le syndicalisme national, je vous plaisais dans le syndicalisme international. Et c'est vrai qu'on ne parlait pas des cadres quand on est à Bruxelles ou même quand on est à Singapour, on parle des professionnels et des managers. Et quand on parle des professionnels et des managers, on ne parle pas du statut. Alors je rappelle quand même que ce statut n'a jamais été écrit. Si quelqu'un dans la salle est capable de trouver effectivement une trace de la formalisation du statut cadre, tout de suite il lève la main et puis alors on ira à ce moment-là traiter ça ensemble, mais moi je ne l'ai jamais vu. Donc ça n'existe pas. Ceci dit, donc, le cadre est défini dans une relation A. Notre analyse est un peu plus fine quelque part que celle-ci. On considère que la fonction, on parle de fonction cadre, s'articule effectivement autour de trois dimensions essentielles. La responsabilité professionnelle, ça concerne très très classiquement toute la population, ce qu'on appelle les managers qui sont en situation de management d'encadrement. C'est effectivement la dimension de l'expertise ou, on va dire, de la technicité. Donc on trouve effectivement les cadres experts, on va trouver effectivement les cadres avec une dimension scientifique extrêmement importante, des chercheurs, des ingénieurs aussi. Et puis il y a une troisième dimension, alors qui a été extrêmement galvaudée, qui est effectivement la dimension de l'autonomie. Donc autonomie de dire, autonomie de faire, autonomie dans l'expression aussi, y compris pour dénoncer un certain nombre de situations que l'on considère comme insupportables. Y compris, par exemple, pour dénoncer, je dirais, des situations, on en parlait juste avant de venir à cette table, autour de la question des politiques de rémunération, y compris d'un certain nombre de cadres dirigeants. Donc cette question de l'autonomie, où quand on trouve ça dans des accords, on dit, mais de toute façon, tous les cadres sont autonomes. Non, tous les cadres ne sont pas tous autonomes, ça c'est pas vrai. Il y a des cadres sans doute qui le sont, mais c'est une famille extrêmement hétérogène, donc avec une grande diversité. Alors, on a réalisé deux enquêtes, on citait tout à l'heure Xavier Neuschwander, une enquête du Figaro. Bon, il y a eu un certain nombre d'enquêtes. Nous, on a fait deux travaux qui étaient plus que des travaux d'enquête, des travaux de sondage, c'était des travaux de recherche-action. Alors, il y en a eu un plus en direction, effectivement, j'irais, des publics cadres intermédiaires. On continue ce travail, d'ailleurs, en direction des cadres intermédiaires des fonctions publiques. Et je vous donne un petit peu en synthèse, ces travaux sont des travaux relativement récents sur les deux dernières années. On a entendu, nous, essentiellement, des gens nous dire on a envie d'être mieux reconnu dans ce que l'on fait. Ça, c'est un premier point extrêmement important, la question de la reconnaissance. Un deuxième élément qu'on a très très souvent entendu également, c'est on voudrait faire notre travail correctement, c'est-à-dire dans de bonnes conditions. Et on considère que les conditions d'exercice de notre responsabilité professionnelle ne sont pas bien réunies aujourd'hui. Ça, c'est un deuxième message extrêmement fort. Donc, vous avez bien compris déjà sur ces deux premiers messages, et je les ai volontairement hiérarchisés, c'était pas pour nous dire « je suis très mal, je suis en grande souffrance, tout va mal ». Non, c'est pas ça qu'on a entendu. Ce qui ne veut pas dire que ça n'existe pas. Et je serai, j'irai extrêmement lucide là-dessus, il y a un collègue qui est avec moi, on a préparé, et on a longtemps travaillé avec Bernard, Thierry Lacombe de l'Observatoire des cadres sur la préparation de ce colloque du 2 décembre l'année dernière, et on l'a fait volontairement en très grande proximité avec les cadres de France Télécom. Et avec eux, on a fait tout un travail de remontée de l'arbre des causes pour savoir mais qu'est-ce qui s'était passé, effectivement, pour qu'on en arrive à une situation comme celle-ci. Bien. Je peux vous garantir que dans tout ce travail de préparation, on n'a pas entendu non plus, je dirais, que ce discours autour des cadres en souffrance ou des cadres qui vont mal. C'est pour ça que je pense que c'est important de nuancer tout cela. Et puisque, je dirais, dans l'introduction au débat, vous étiez en train de dire, vous avez fait ça sur trois séances, hein, et vous avez fait venir effectivement Christophe Dejour, moi je pense qu'effectivement ce discours, qui est un discours dans l'expert, dehors n'est pas le travail vu du dedans. Parce que quand on commence à regarder précisément le travail vu du dedans, certes, il y a des fragilités humaines, ça existe, mais il faut d'abord interroger les systèmes qui ont conduit à des situations comme celle-ci. Et dans le cas de France Télécom, il y a quand même deux choses absolument extraordinaires, que vous connaissez sans doute tous. Lorsque le numéro 2 est arrivé, Vénès, il est arrivé avec des méthodes, on va dire, de management et des outils de gestion dans sa valise, qu'il avait déjà utilisé dans de très nombreuses entreprises, dans un très grand cabinet de conseil dont je ne citerai pas le nom, mais en disant, il n'y a aucune raison que ça ne marche pas chez France Télécom. Bien. Il y a deux outils de gestion essentiels qui ont été utilisés dans cette œuvre-là. Il y en a un premier qui s'appelle le time to move. Donc je suppose que vous en avez entendu parler. C'est, il est temps de changer. Donc c'est bien la question des mobilités, et des mobilités organisées comme un process extrêmement industriel, avec très très peu d'accompagnement du changement ou d'accompagnement de ces mobilités. Premier outil de gestion. Le deuxième, encore plus surprenant, puisque c'est verbalisé dans un comité de direction, la mise en inconfort. Les termes mêmes sont violents, hein ? La mise en inconfort. Autrement dit, lorsqu'on a épuisé tous les leviers de retraite anticipée, de départ négocié, etc., et qu'on a encore un volant de sureffectif, hein, il va falloir effectivement organiser du time to move et de la mise en inconfort de telle sorte que de toute façon il ne s'arrête pas. Bien, je n'en dis pas plus. Simplement, quand on a remonté effectivement toute cette filière dans le travail de préparation, on peut comprendre effectivement qu'il y a un profond malaise de la part effectivement des cadres et des managers. Cela étant, on a rencontré également à cette occasion des gens qui nous ont dit comment aujourd'hui créer les conditions finalement d'un mieux vivre ensemble au travail, comment recréer les conditions d'un mieux travailler, et c'est un travail qu'on va continuer nous en tous les cas en tant qu'acteur syndical à réaliser en appui. Mais on est bien dans un appui, quelque part, permettant de faire de sorte que les salariés, les cadres et les managers en particulier, enfin ceux avec lesquels on va travailler, redeviennent quelque part acteurs de leur avenir professionnel, redeviennent quelque part acteurs d'organisation du travail, donc dit autrement, reprendre quelque part du pouvoir d'organisation. Donc je suis plutôt sur un discours positif, malgré effectivement tout ce que j'ai dit auparavant, mais ça me semble effectivement important. Alors juste un petit clin d'œil effectivement sur ce livre, moi j'ai accepté de le postfacer. Pas simplement par sympathie ou par amitié avec Francis Gainsbourger, je pense que les thèses, et je vous invite à lire ce livre, qui sont effectivement défendues, sont extrêmement justes et repartent d'une analyse extrêmement fine en très très grande proximité avec des réalités professionnelles ou avec des réalités opérationnelles. Je vais prendre un exemple pour me faire comprendre, et d'ailleurs le titre, alors, puisque c'était cité, l'éditeur ne rêvait qu'une seule chose, c'est que le titre soit « Le travail qui tue ». On a été extrêmement ferme sur cet aspect-là, il y a eu de nombreux allers-retours, je peux vous le garantir, et on a dit c'est hors de question que ce soit ce titre-là, parce que c'est l'antithèse de tout ce qu'on a voulu démontrer d'ailleurs dans le bouquin. Ce qu'on a voulu démontrer dans ce livre, c'est qu'est-ce qui tue le travail, et qu'est-ce qui empêche de travailler, et qu'est-ce qui empêche de bien travailler. Et c'est pas du tout la même chose. Et là on dit deux choses essentiellement, on dit la surgestion. La surgestion, c'est-à-dire, on a rajouté des outils et des instruments de gestion qui n'ont fait que accroître quelque part la distance entre les salariés et leur direction et leurs employés. C'est vrai aussi pour les cadres. Et ça, c'est un discours qu'on a très très souvent entendu, au même titre qu'on a entendu des besoins de reconnaissance, on a très très souvent entendu, mais on est très très loin d'un certain nombre de processus de prise de décision. Donc il y a une vraie césure qui a été exprimée entre les cadres, les managers et puis les dirigeants. Ça, c'est quelque chose qu'on a effectivement beaucoup ressenti. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ce travail d'analyse un petit peu plus fine là aussi sur ces questions des outils de gestion, mais parce qu'il nous semble, je ne parle pas de France Télécom, hein, mais il nous semble qu'effectivement, cette accumulation dans le temps de ces outils qui ont conduit à beaucoup de reporting, alors j'ai rien contre le reporting, sauf que quand des cadres nous disent je passe pratiquement maintenant plus du tiers, voire la moitié de mon temps, à remplir des tableaux de bord, ils ont quand même le sentiment de ne pas faire vraiment leur travail. Alors, et on pourra en citer d'autres, effectivement, comme ça, mais il y a beaucoup de surgestion. On veut en permanence évaluer le climat social. On veut en permanence avoir des baromètres. Alors, il se trouve qu'il y a à peu près 2 mois, j'ai eu l'occasion de faire une intervention, c'était à 2 mois, et c'était avec un DRH, hein, et c'était le DRH de l'ADS. Et alors, il expliquait à la tribune, devant un parterre de cadres dirigeants pour l'essentiel, qu'ils avaient fait une enquête de mesure, plutôt d'implication des cadres. Et ça masque toute la distance qui vous sépare effectivement des salariés qui n'arrêtent pas de dire où ils sont les RH. Où sont les RH? On a entendu ça dans la recherche action en permanence. Mais ils sont où les RH? Alors aujourd'hui, on voit et on lit beaucoup de choses, il faut des RH de proximité. On a dit à un moment donné, tous les managers sont des RH. Les effets de pendule, très bien, mais on voit bien que ça ne marche pas bien. Donc je pense qu'effectivement, dans le management de proximité, cette dimension-là ne doit pas être absente. Mais tous les managers ne sont pas pour autant des RH. Donc ça veut dire que la question de l'appui et de l'appui de proximité à ceux qui ont la charge, effectivement, de mener des projets et d'encadrer les équipes, ça c'est une vraie question. Et quel est l'équipement? Et là, c'est pas, je dirais, simplement une boîte à outils, il va falloir sortir. C'est comment on recrée de l'ingénierie de la discussion sur le travail. C'est comment on recrée de l'ingénierie de la discussion sur les compétences. Ces questions-là, par contre, sont extrêmement importantes. Et là, effectivement, aujourd'hui, il y a encore un grand vide. C'est ce que nous exprime, c'est ce que nous avaient exprimé surtout, d'ailleurs, les cadres et les ingénieurs de Guyancourt. C'était assez frappant. Enfin, on a entendu aussi le discours dans les fonctions publiques. Mais chez eux, c'était encore plus marqué. Et je terminerai juste là-dessus pour ne pas prendre trop de temps de parole. On leur a posé la question, mais qu'est-ce qui vous gêne le plus aujourd'hui dans votre boulot, j'irais dans un centre comme celui-ci. Et finalement, ils nous ont tous répondu à peu près la même chose. Nous sommes ingénieurs. On a été recrutés ici, nous, j'irais dans ce centre, pour faire, bon, à la fois, j'irais un travail de conception. On n'imaginait pas que notre travail de conception soit aussi théorique. C'est quelque chose qui est ressorti extrêmement fort. Alors on a gratté en disant, mais attendez, mais qu'est-ce que ça veut dire finalement d'avoir un travail de conception? Vous êtes des concepteurs. Ça veut dire quoi d'avoir un travail aussi segmenté théorique? Ah mais on ne sait pas toujours ce qui se passe en amont. Et on ne sait pas toujours ce qui se passe en aval. Donc on nous dit, voilà, c'est ça, et c'est ce périmètre-là. Alors, quand on remonte, effectivement, la filière, je ne sais pas s'il y a des gens dans le secteur de l'automobile, mais j'ai posé la question aux administrateurs, salariés, élus au conseil d'administration, pour savoir si à un moment donné, lorsque Carlos Ghosn était arrivé, s'était posé la question de l'organisation du travail de conception, donc essentiellement de ce public d'ingénieurs. Et mon collègue, l'administrateur CVT, a eu l'honnêteté de me dire oui, ça a été présenté à Jean au conseil d'administration, mais personne n'a rien. Alors, je reviendrai peut-être sur cette question, mais je termine juste là-dessus en disant aujourd'hui, là où on cherche effectivement des réponses ou des problèmes d'abord d'individus ou des problèmes individuels, voire des solutions individuelles, je pense qu'il faut parfois savoir réinterroger probablement les systèmes qui sont à la fois des systèmes de management et des systèmes d'organisation pour justement bien identifier là où sont effectivement les zones à risque, là où sont les risques de dépassement de ligne jaune. Parce que si on ne fait pas ce travail de prévention largement en amont en interrogeant ces systèmes, je pense qu'en tous les cas, nous syndicalistes, on ne fera pas clairement notre boulot. C'est ce que l'on va faire avec les équipes de France Télécom et avec l'appui d'ailleurs d'une équipe de chercheurs de Dauphine, c'est-à-dire apprendre aussi à des représentants des salariés à décortiquer ces outils et ces instruments de gestion pour pouvoir mieux les questionner le plus en amont possible. Et si effectivement dans 5 ans, si je repose la même question à mon collègue administrateur CFDT, au conseil d'administration de Renault, lorsque vous aurez une question qui viendra comme en conseil d'administration, j'espère qu'il y aura au moins un interlocuteur, et j'espère que ce soit